Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue sur un match, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales retour de l'UEFA Champions League avec Paris SG Dortmund ce soir à 21h sur Canal Plus Foot et Real Madrid Bayern demain à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, le Tour de France est encore là pour une magnifique étape aujourd'hui, la 12e étape de cette grande boucle. Nous sommes partis de Briançon tout à l'heure en direction de l'Alpe d'Huez. C'est considéré comme l'étape reine, mais peut-il y avoir une étape plus belle que celle que nous avons vécue hier avec le changement de maillot jaune et le succès de Jonas Vingegaard? Eh bien, ce sera difficile de faire aussi bien, mais on espérait en tout cas, parce qu'il y a sur le papier de quoi faire de magnifiques choses. Cyril Guimard est là, il est en meilleure forme qu'hier. Hein, j'espère bien, il a bien dormi cette nuit. Grosse nuit.
Ah oui. En fait, hier, j'étais comme Pogacar, j'ai eu un jour sans.
Ah oui. Tu as connu une fringale, c'est ça?
Une fringale.
On l'a bien entendu
et déshydratation.
C'est pas un truc qui pourrait m'arriver à moi, mais bon, faut toujours être prévoyant au niveau de la bouffe. Monsieur Coppel, comment ça va, mon Jérôme?
Ça va, Christophe. Bonjour à tous. Très bien, très bien. Hâte de cette étape une nouvelle fois.
Et oui, parce que c'est déjà parti. On va vous faire un point dans un instant. Et puis Pierre-Yves Leroux, lui aussi, en pleine forme. Il a. Ce matin, tu avais une petite voix de fumeur. De fumeur, ouais. Ce qui s'est passé hier.
Et il était tôt, hein.
Au niveau de la voix.
Commencer à 8h du matin, je suis pas habitué.
C'est pas possible, c'est au milieu de la tête qu'il a fait. Heureusement qu'on faisait pas de la télé ce matin et que de la radio. Hein, franchement, t'avais une tête.
Ma chemise était mal repassée.
Et puis Arnaud Souk, il est là. Il est sur sa moto avec Marco comme tous les jours. Ils sont dans l'ascension du Galibier. Ils prennent de la hauteur, ils prennent de la fraîcheur. Tout va bien. Salut les garçons.
Salut les amis, salut à toutes et à tous. Oui, tout va bien. Écoute, comment ça pourrait aller mieux quand hier on a mangé dans une petite trattoria en Italie à Sestrière où on dormait? C'était magnifique. On avait un tiramisu, Christophe, tu aurais adoré. Ça va très bien aussi dans cette montée.
Il en a eu un aussi, t'inquiète.
Du Galibier, on a. Oui, mais peut-être pas de la même qualité. Je peux te dire que le mascarpone, il était vraiment crémeux. C'était vraiment pas mal. Bref, tout ça pour vous dire que ça se passe très bien dans la montée du col du Galibier, 24 degrés. On a quelques petits nuages aussi qui permettent de rafraîchir la route. Il faisait très très chaud ce matin à Briançon au départ, jusqu'à ce que justement une petite pluie vienne nous rafraîchir tout ça. Donc c'est pas forcément désagréable dans la perspective de ce qui nous attend un petit peu plus tard sur la route. Non, voilà, pour l'instant tout se passe bien. On a même vu Thibaut Pinot tenter une petite escarmouche il y a quelques instants en sortant du peloton. C'est peut-être le jour des Français, qui sait, peut-être le jour de Thibaut Pinot, 14 juillet.
Ah ben sait-on jamais, puisqu'il a été pronostiqué par Cyril, c'est ça, je crois. Hein,
et moi aussi d'ailleurs.
Mais vous voulez lui porter malheur, c'est ça en fait là?
Non, pas du tout.
Si tu paries comme
moi,
Cyril,
j'ai gagné hier,
tu vas l'envoyer dans le fossé quand même.
J'ai gagné hier quand même.
C'est vrai, tu as été pas mal hier. Enfin, franchement, fallait oser le faire. Et tu l'as fait, et tu es donc quasiment, je crois que tu es en tête des paris. Ah non, il y a Johan. Évidemment.
J'avais beaucoup de retard.
T'étais plus qu'à moins 200, c'est pas
grave. Voilà, c'est ça. Il me faudra 2-3 grosses cotes pour me refaire d'ici Paris.
Alors, Arnaud nous parlait de Thibaut Pinot il y a un instant. On va faire un top course. Thibaut Pinot qui tente de s'extraire du peloton, mais il y a déjà du monde à l'avant de la course. Nous sommes à 138 km de l'arrivée tout à l'heure à l'Alpe d'Huez, à 6 300 km du premier sommet de cette journée. Et quel sommet? Le col du Galibier. Tout de suite, le top course.
138 km à parcourir, la première difficulté du jour. On retrouve notre ami d'hier, le Galibier, avec 6 hommes en tête. Je vous les donne tout de suite, puisqu'il y a deux Français, Anthony Pérez et Mathis Louvel. Nelson Paules, Gossen est là, il y a également Schoenberger, et puis notre dernier homme à l'avant, c'est Nelson Oliveira. Il y a deux garçons qui sont en contre derrière, Giulio Ciccone accompagné de Louis Mentis, ils sont à 25 secondes, donc ils vont sans doute rentrer. Et puis derrière, ça commence à bagarrer, tu le disais Arnaud, avec notamment Thibaut Pinot qui a allumé une première mèche. Le groupe, le peloton, avec évidemment le nouveau maillot jaune Vingegaard, est à 1:30 de la tête de course, mais à 6 km du sommet du Galibier. Ça commence à faire mal derrière pour quelques garçons comme Max Walscheid, l'ancien équipier de Guillaume Martin et Brian Coquard, notamment de la Cofidis.
On sent que tu as fait un petit séjour au Danemark, toi. Comment tu dis ?
Vingegaard.
Vingegaard.
Oui, tout à fait. Vingegaard.
Les deux A, on les prononce haut.
Oui, tout à fait. Oui.
Il est bon. Il sait parler toutes les langues.
À une semaine au Danemark, moi, je deviens polyglotte.
T'es comme un hareng dans l'eau, finalement. Ou dans l'huile, c'est au choix.
Plus dans l'huile.
Surtout après quelques jours de Tour de France. Et donc, le peloton maillot jaune emmené, ils sont un paquet, mais il y a toutes les couleurs de maillot, d'ailleurs, hein, puisque la Jumbo Trust quasiment tout, le maillot vert de Van Aert, le maillot jaune de Vingegaard et d'autres coureurs qui accompagnent les deux leaders de cette équipe Jumbo. Le maillot blanc, parce qu'il est désormais en blanc, notre ami Pogacar, n'est pas aux avant-postes du peloton. Hein,
Il vient de remonter, il est dans les 10 premiers. C'est la première fois depuis le départ de ce Tour de France que c'est les vrais porteurs du maillot qui portent leur maillot. D'habitude, le maillot blanc, c'était Pidcock parce que Pogacar avait le maillot jaune, ou quand Van Aert avait le maillot jaune, c'était Jakobsen qui avait le maillot vert, etc. Aujourd'hui, tout le monde porte son vrai maillot distinctif, donc Pogacar le blanc, Vingegaard le jaune et Van Aert le vert.
Voilà. L'année dernière, on se souvient que Pogacar avait ramené sur les Champs-Élysées trois maillots différents, le maillot jaune, le maillot blanc de meilleur jeune et le maillot de meilleur grimpeur. Pour l'instant, il n'a qu'un, il n'est en tête que d'un seul classement, même si le classement du meilleur grimpeur est loin d'être joué, hein, avec beaucoup de points aujourd'hui. Je crois qu'il y a 60 points qui vont être distribués, donc ça sera dur quand même pour Simon Geschke de conserver son maillot à poids.
D'ailleurs, la bagarre pour le maillot à poids a débuté dès le baisser de drapeau de Christian Prudhomme. Enfin, il n'a pas vraiment de drapeau, mais il dit voilà, le départ est donné. Eh bien, c'est Warren Barguil qui était placé juste à côté de la voiture de direction de course, qui a placé une accélération suivie comme son ombre par Simon Geschke, porteur du maillot à poids. Les deux hommes n'ont pas réussi à prendre de la distance. Résultat, ils se sont fait un petit signe, l'air de dire bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, ça ne veut pas sortir. On parlait du classement du meilleur jeune, du maillot blanc. Tadej Pogacar est premier et le deuxième, c'est Thomas Pidcock qui est deuxième à 8 minutes 50. Logiquement, Tadej Pogacar devrait aller chercher ce maillot blanc. Ça bouge à l'avant avec Anthony Pérez, le Français, qui a décidé de fausser compagnie. Il doit considérer que ça ne va pas assez vite avec ses compagnons d'échappée. Et donc, il accélère tout seul. On va voir si ça réagit derrière. Ils n'ont qu'une minute 20 d'avance. Donc, c'est vrai que comme il y a eu des accélérations avec celle de Thibaut Pinot, l'écart n'est pas extraordinaire. Et il y a un gros péto qui se forme déjà à 136 km de l'arrivée. Un groupe Eto se forme derrière le peloton.
Anthony Pérez de la formation Cofidis qui prend donc quelques mètres d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. Il est encore loin du passage au sommet du Galibier. Est-ce que c'est pas un peu trop risqué, Cyril, de partir si loin? Peut-être cherche-t-il les points de la montagne, d'ailleurs, Pérez.
Oui, mais il pouvait attaquer plus près du sommet, il pouvait éventuellement aller la chercher au sprint parce qu'il va vite. Partir à 5 km de l'arrivée, je comprends pas, je vois pas le sens de cette attaque, sauf s'il veut partir tout seul et arriver à l'Alpe d'Huez ici avec un quart d'heure, mais ça me paraît quand même un peu difficile. Non. Il a quand même intérêt à rester dans le groupe le plus longtemps possible et au moins essayer d'aller jusqu'au bas de l'Alpe d'Huez avec le groupe. Si cette échappée, bien sûr, existe toujours.
En 2021, Anthony Pérez avait décroché le classement de la montagne sur Paris-Nice. Donc voilà, c'est un habitué peut-être des gros pois rouges, même s'ils sont bleus sur Paris-Nice.
On n'a pas eu le temps.
C'est Dauphiné qui sont bleus. Je ne sais pas sur Paris-Nice de quelle couleur ils sont, les pois du meilleur grimpeur. Hein, faut s'enseigner quand même.
Ils sont rouges, ils sont rouges.
Ils sont rouges aussi. C'est sur le Dauphiné qu'ils sont bleus, hein, c'est ça?
Oui.
Bah,
oui,
il me semble. D'accord. Bah, sur le Dauphiné, ils sont. Maintenant, j'ai un doute.
Ouais, non, si, sur le Dauphiné, ils sont bleus.
On n'a pas eu le temps de.
Sur le Dauphiné, ils sont bleus. Ouais.
De faire un petit coucou.
Il creuse l'écart, en tout cas, Anthony Pérez. Hein. Il creuse l'écart très rapidement. Il a déjà pris 15 secondes d'avance. Hein.
On n'a pas eu le temps de faire un petit coucou, puisque c'est parti vite, à tous les gens qui nous ont salués.
Surtout le druide.
Ouais,
le druide. Guimard, un bain de foule.
Hier, on fait un petit clin d'œil à Jean-Louis, qui a pu profiter de l'émission aussi et d'être en notre compagnie hier soir. Je viens aussi de recevoir un petit message de Philippe Rimbaud, qui était aussi avec nous dans le studio et qui me dit qu'il fallait que je quitte la route du Tour pour que mes coureurs brillent, puisque à l'avant, dans l'échappée, Mathis Louvel et Anthony Pérez sont deux coureurs dont il s'occupe. Et puis tu avais des clins d'œil toi aussi à faire, Jérôme, je crois.
Toujours un clin d'œil pour le druide, hein, avec Jérôme du virage 5 qui m'a arrêté pour me plaindre des paris du druide. Il m'a dit: j'ai perdu un SMIC à cause des paris de Cyril Guimard. tu lui diras qu'il faut qu'il s'améliore. Voilà, donc petite dédicace à Jérôme du virage 5 de l'Alpe d'Huez.
puis on a rencontré des supporters des Girondins de Bordeaux qui, voyant que leur équipe allait mal, maintenant sont supporters de Cyril Guimard sur le Tour de France. Petite photo, il était en pleine forme, hein, notre ami bordelais. Hein.
Ah, c'est ah, le oui. moins qu'on ouais. puisse dire. Même une très, 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 très grande forme. Et puis, à cette heure-là.
Et puis, et puis Cyril a quand même obtenu en échange d'une photo une bise d'une admiratrice.
Ah oui, c'était super sympa.
Ah, super oui. sympa, ouais, tu lui as demandé, elle ne voulait pas la donner comme ça.
T'as hein. rigolé, tu
C'est marrant comme il oublie les gestes barrières par moment.
Oui, oui, ça, les barrières. Il y a plus de barrières avec Cyril.
Non, non, parce que je lui ai fait la bise. Elle a voulu me faire la bise. Et effectivement, t'as démarré pour qu'elle ne puisse pas la faire.
Voilà. Non, mais attends, je suis jaloux. C'est pas possible. Ça se passe comme ça. 135 km 800 de l'arrivée. On s'approche du Galibier. Il y a encore 4 km. Le revêtement a l'air plutôt pas mal, hein, Jérôme. Le Galibier, c'est un col très utilisé, évidemment, par les coureurs, par les voitures également. Il est toujours impeccable.
Oui, il est impeccable. Alors il y a des parties qui rendent un peu moins que d'autres, mais non, dans l'ensemble tout va bien. Et voilà, les coureurs vont dans 4 km passer au sommet, se lancer dans la descente de ce Galibier. Bien sûr, ils la connaissent puisqu'ils sont passés hier dans l'autre sens, mais la descente du Galibier par ce côté-là, elle est assez technique aussi. Voilà, dans le groupe d'échappée, ça peut leur permettre de prendre un petit peu d'avance s'ils font une belle descente par rapport au peloton. Mais on remarque quand même que l'équipe Jumbo-Visma de Jonas Vingegaard leur laisse pas beaucoup de marge. Hein. Pour l'instant, ils les tiennent à 1 minute 40. Il y a un gros tempo dans le peloton maillot jaune.
RMC Intégral Tour.
Alors, quelle tactique justement va utiliser la Jumbo aujourd'hui après cette incroyable séance hier avec ses attaques, contre-attaques, sur-attaques qui ont permis à Vingegaard d'aller chercher le maillot jaune et de mettre à mal Tadej Pogacar. Aujourd'hui, Cyril, forcément la Jumbo va jouer différemment, va jouer plutôt défensif, attendre peut-être les attaques de Pogacar, hein, qui a promis qu'il allait prendre sa revanche, tenter de la prendre en tous les cas. Et puis, il y a aussi d'autres coureurs qui sont peut-être intéressés. Romain Bardet, deuxième à 2 minutes 16, est-ce que lui aujourd'hui il a intérêt à attaquer, peut-être dans l'ascension finale dans l'Alpe d'Huez où il pourrait y avoir une bagarre, mais a priori pour le général ça ne devrait pas attaquer avant le pied de l'Alpe, hein.
Entre les favoris je ne pense pas, d'autant qu'il y a une échappée qui est partie à l'avant. Je pense qu'aujourd'hui d'ailleurs c'est simple, toute l'équipe pratiquement Jumbo est en tête de peloton avec en serre-file le maillot jaune, ils assurent un tempo pour l'instant. Ils n'ont pas d'autre chose à faire que cela. Si Vingegaard a les jambes d'hier, alors à ce moment-là, une offensive dans la montée de l'Alpe d'Huez pour continuer à creuser l'écart sur Pogacar, mais également sur les suivants immédiats au classement général. Oui, ça c'est possible. Maintenant, Pogacar a promis d'attaquer. Vous savez, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent.
C'est pas le genre à ne pas... Il manque rarement à sa parole quand même, Pogacar. Et c'est plutôt du genre au sang. Il est plutôt, je vais y arriver. Il est plutôt du genre offensif tout de même depuis le début de ce Tour de France. À chaque fois qu'il a pu aller grappiller quelques secondes, il l'a fait. Hier, il était dans le dur, mais aujourd'hui, bon.
Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire qu'il est offensif. Peut-être même trop. Des fois, on en a parlé hier. Est-ce qu'il a pas fait trop d'efforts et c'est peut-être ça qui lui a coûté un peu d'énergie dans le granon. Pour revenir à Jumbo-Visma, je pense qu'ils ont tout intérêt à laisser cette échappée se développer, prendre beaucoup de temps et même se laisser disputer la victoire à ces hommes présents dans l'échappée. Comme ça, au moins, ils ne prennent pas le risque que Pogacar ou d'autres prennent des bonifications. Même si Vingegaard a de l'avance, il a 2 minutes 20 d'avance sur Romain Bardet. Voilà, pas besoin de prendre de risques pour essayer de gagner l'étape et au risque de se faire passer, par exemple, par Pogacar ou Vingegaard sur la ligne et qu'ils prennent des bonifications. Le mieux placé à l'avance est Mentis, pour l'instant, de l'équipe Intermarché ou Antigobert. Il a 18 minutes 27. Donc voilà, il n'y a pas le feu dans la boutique. Ils peuvent laisser cette échappée prendre au moins 10 minutes sans problème.
2 minutes 22, on en parlait hier dans l'after tour, Cyril, 2 minutes 22. Ça suffit à notre ami Vingegaard pour espérer ramener son maillot jaune à Paris, ou alors il faudra se méfier. On se rappelle qu'il y a tout de même un dernier contre-la-montre de 40 km la veille de l'arrivée sur les Champs-Elysées à Rocamadour. 2 minutes 20, c'est beaucoup quand même. Donc Pogacar a intérêt à reprendre du temps. Il ne peut pas faire autrement.
Il ne peut pas faire autrement, mais tout à l'heure, je disais, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, après l'étape d'hier, il va avoir les jambes pour essayer de reprendre du temps? Est-ce que dans la tête, il aura refait une motivation, voire une surmotivation pour passer à l'offensive? Parce que je pense qu'il a pris quand même une belle paire de baffes. Et ça ne s'élimine pas en 24 heures. Donc, aussitôt après l'arrivée, quand il dit « Oui, mais je vais continuer à attaquer », oui, bien sûr, l'intention est là. Est-ce que les possibilités le seront? Je n'en sais rien. Mm-hmm. Mais il reste à Pogacar 3 arrivées au sommet pour essayer de reprendre du temps.
Ouais, c'est pas énormément 3 arrivées au sommet.
4 hein. Avec celle d'aujourd'hui.
4 avec celle d'aujourd'hui, oui, d'accord.
Si on est dans une configuration normale, c'est 30 secondes dans chaque ascension, dans la dernière ascension, parce que je vois pas Pogacar attaquer à l'avant-dernier col quand vous avez 5 coureurs.
Il n'a pas la possibilité de faire la même chose que la Jumbo. Il n'a pas autant d'effectifs.
Oui, mais sauf que s'il fait 4 fois premier, ça fait déjà 40 secondes de prise en bonif.
Il va pas gagner les 4 fois. Il y aura forcément une échappée une fois qu'il va aller au moins au bout. Il va au moins se faire arranger une fois.
Maintenant, ça, c'est de la théorie. Hein.
Oui. Maintenant, je pense que Vingegaard, il a un bon matelas, mais c'est pas gagné encore. Loin de là, le tour est encore un peu long. Ce qu'il faudrait savoir, c'est le motif de la défaillance de Pogacar hier. Ouais, si c'est une fringale, par exemple. Bon, peut-être que déjà aujourd'hui c'est retapé. D'ailleurs, souvent après une fringale, on a des bonnes chances.
Pas trop mal, oui.
Et souvent, c'est juste avant la fringale qu'on se sent vraiment très bien avant qu'elle arrive. Rappelez-vous son petit geste de sa vie, c'est rigolo, un peu euphorique comme ça. Peut-être que c'était déjà un signe d'une fringale. Si c'est ça, je suis pas inquiet pour lui. Dès aujourd'hui, il aura retrouvé ses jambes et il pourra peut-être attaquer. Par contre, si c'est de la déshydratation, par exemple, ça c'est autre chose. Ça met déjà plus de temps à récupérer. Et après, est-ce que c'était simplement une panne de jambes tout court? Ça, après, c'est une autre histoire.
Un quadruple vainqueur du Tour de France est en train de prendre de l'avance. C'est quand même une image qu'on n'a pas vue depuis très longtemps. Image sympathique. Chris Froome qui part à l'avant du peloton là pour essayer de revenir sur les échappés qui sont à 1 minute 56 devant le groupe Maillot Jaune.
C'est la deuxième fois qu'il sort aujourd'hui.
Oui, il avait tenté tout à l'heure déjà.
Mais Chris Froome ne fait plus peur à grand monde. Regardez devant, eh bien, on ne va même pas chercher.
C'est plutôt triste fort.
Pardon ?
Triste Froome, c'est ça que tu voulais
dire. Oui, okay. Il se met à l'anglais maintenant, alors là on est mal barré. 133 km 500 de l'arrivée. Et donc un groupe de 6 ou 7.
Oh non, ça a explosé. Hein. Oui, Anthony Pérez est tout seul et lui il se rapproche du sommet. Il est à 1,5 km et 20 secondes derrière. On a un petit groupe avec 3 hommes, Luis Mentis, Giulio Ciccone et Nelson Paules. Et puis un petit peu plus loin, Sean Berger, Oliveira avec Gossens, Mathis Louvel a été lâché, il est à 1 minute 04 et puis derrière donc Chris Froome à 1,50.
Et ben ça va peut-être faire 20 points d'un coup pour Anthony Pérez de la formation Cofidis pour le classement du maillot à pois rouge de meilleur grimpeur. C'est toujours ça de prix. On rappelle que le leader Geschke en a 43, donc Pérez est peut-être parti pour une longue échappée, une longue envolée vers le maillot à pois. 14h23, on revient dans un instant sur la route du Tour, le Galibier dans quelques instants pour Anthony Pérez.
RMC Intégral Tour,
Christophe Cessieux.
La 12e étape du Tour de France aujourd'hui, l'une des étapes les plus belles sur le papier, avec l'ascension du Galibier, la Croix de Fer et la montée finale vers l'Alpe d'Huez. On est à quelques 500 mètres du passage à la première difficulté. Anthony Pérez est en tête, il va aller chercher les points. Arnaud Souk sur la moto RMC.
Et oui, il a creusé un écart significatif depuis le moment où il est sorti de ce groupe, Anthony Pérez, notamment sur Nelson Paules. Il a 28 secondes d'avance selon mon chrono. Là, je viens de faire un petit écart, il était donc à 500 mètres du sommet, donc il va aller chercher ses points, Anthony Pérez. Voilà la belle opération, il n'y a pas eu de grosse bagarre. Du coup, eh bien, le fait de sortir de ce groupe d'échappés, il a eu bien raison, le Toulousain. Il va donc aller chercher ses 20 points. Attention, parce que derrière, énorme descente, quasiment 50 km de descente à suivre pour Anthony Pérez.
Et Arnaud, ça veut dire qu'il n'y a pas que les Colombiens, il y a aussi les Toulousains hein, sur le souvenir Henri Desgranges. C'est une première, parce que hier.
C'est évident.
Parce que hier, en fait, c'était pas tout à fait le souvenir Henri Desgranges. On était dans le Galibier, mais c'est aujourd'hui que ça compte. Hein.
Et ben voilà, ben écoute, c'est une très très bonne nouvelle pour la ville de Toulouse. Non, je sais comme. Mais mais oui, c'est sympa quand même de voir. Il y a un paquet de Français hein, qui l'ont remporté le souvenir Henri Desgranges, il me semble. Malgré tout, c'est un prix qui est distribué depuis 1947. Il y en a eu quelques-uns. Je sais pas si c'est une grande majorité, mais il y en a eu quelques-uns. Et bien voilà, Anthony Pérez vient compléter la liste en tout cas. Je suis quasiment sûr que ça sera le premier Toulousain.
Eh ben magnifique, Anthony Pérez qui est à 200 mètres maintenant du passage au col du Galibier, le toit de ce Tour de France. Il est encouragé, il y a beaucoup de monde. On a vu énormément de vélos monter tout à l'heure à l'assaut du Lautaret puis du Galibier. Et là, eh bien, il y a du monde tout là-haut. Il doit faire beau en plus, Arnaud. Là, la température est bonne à 2600 mètres, non?
Ah ouais, là, 19 degrés. On se prend un petit vent frais. Alors, il y avait beaucoup de vent d'ailleurs, hein, ça a signalé sur les hauteurs du Galibier. On se prend un petit vent frais. La descente va être très rafraîchissante et on va bien avoir besoin de faire redescendre la température parce que derrière en vallée ça s'annonce quand même beaucoup plus chaud pour tout le monde et peut-être même tout à l'heure pour la montée de l'Alpe d'Huez qui sera quand même quasiment 1000 mètres plus bas.
Voilà les derniers mètres pour Anthony Pérez.
Voilà, il lui reste 10 mètres à parcourir et il va passer sous la banderole qui symbolise le sommet du col du Galibier. Il va pouvoir basculer de l'autre côté. Anthony Pérez en tête avec 26 secondes d'avance sur les poursuivants, 1:42 sur Chris Froome et 2 minutes 10 sur le peloton des poursuivants qui s'approche maintenant du sommet. Aussi Luis Mentis, Nelson Poles et Giulio Ciccone qui, on le rappelle, avaient porté le maillot jaune sur le Tour de France pendant deux journées, c'était en 2017, un jour de planche des belles filles. Il avait terminé deuxième derrière Dylan Teuns, mais il avait pu empocher pour son premier Tour de France un maillot jaune. Belle aventure cette année-là, il avait été très très présent lors de la première semaine.
Anthony Pérez qui remonte du coup à la cinquième place du classement du meilleur grimpeur avec 20 points. On rappelle que le porteur du maillot à pois rouges se nomme Simon Geschke de la formation Cofidis, donc deux équipiers. Hein. Il va peut-être aller piquer les pois à Simon, ça va se régler ce soir à l'hôtel. Hein.
On sait où ils sont à l'hôtel, oui, en plus.
On a dit qu'on allait boire le champagne s'il gagnait.
S'il gagnait, voilà. Exactement. Ouais, ouais.
Et le patron nous a dit qu'il ferait payer l'entrée. Non, mais nous, il nous connaît.
Mais voilà, il nous a expliqué que le cuisinier faisait les repas le soir pour les équipiers, pour les coureurs.
De l'hôtel ou de l'équipe?
Cuisinier de l'équipe.
Oui,
cuisinier de l'équipe. Oui, oui, oui. Cuisinier de l'équipe qui préparait juste pour les coureurs. Oui. Ils sont 7, hein, puisque Guillaume Martin n'est plus là. Donc voilà, il sait qu'il aura son bon petit repas tout à l'heure. Et puis ça bouge également avec Pierre Latour devant Wout Van Aert. Mathis Louvel vient de passer à l'instant, lui aussi au sommet. Vous connaissez le point commun, messieurs, entre Mathis Louvel, Jacques Anquetil, Jérôme Pinault et Tiffany Hopkins?
Non, alors là tu me...
Tiffany Hopkins, vous la connaissez? C'est une actrice X, de film X, non?
Ah non, on ne connaît pas, avec toi qui connais ça.
D'accord. Ils sont tous nés à Mont-Saint-Aignan, voilà. C'est pas mal quand même. Jacques Anquetil, Jérôme Pinault, Mathis
Louvel. Ta copine?
Anthony Hopkins, elle joue dans un autre film. Tiffany Hopkins.
Tiffany Hopkins, ouais. Elle n'a pas un nom à être née à Mont-Saint-Aignan. Ça doit être un pseudo, à mon avis, c'est pas possible.
Non, elle s'appelle Georgette, mais je ne peux pas dire son vrai nom. En revanche, elle m'a dit le prénom, tu peux.
Voilà. Georgette, c'est magnifique, moi, je trouve. Pour Jackie et Michel, ça va très bien. Allez, 14h29, le peloton maillot jaune qui passe à son tour, donc ici au col du Galibier, en file indienne. C'est monté quand même assez vite, Jérôme. Ce premier col. C'est sympa de s'infuser le col du Galibier comme ça au réveil ou presque. Hein.
Ouais, c'est ça. Ils ont commencé par le Lautaret juste avant, qui est plutôt un long faux plat. Mais quand vous arrivez en haut du Lautaret, vous tournez à droite pour aller chercher le Galibier à départ à froid comme ça dans une montée. Je pense que tous les coureurs ont fait un peu d'home trainer ce matin au bus pour pouvoir partir bien chaud. Et vu le départ qu'il y a eu avec toutes ces attaques, c'est sûr que c'est monté très très vite. Et surtout, le tempo de Jumbo Visma pour l'instant reste très élevé puisqu'ils maintiennent Anthony Pérez qui est en tête de la course à moins de 2 minutes. Alors que le mieux placé de cette échappée, on a dit, c'est Mentis à plus de 18 minutes.
On le sent un peu sur des œufs dans la descente là.
Oui, alors la descente est assez technique. C'est pas le meilleur descendeur. Hein. Rappelez-vous, au Tour de France, il a pris une grosse gamelle dans une descente. Il avait foncé dans la voiture de son directeur sportif.
Oui,
donc je pense qu'il y a encore quelques appréhensions pour Anthony Pérez. Donc je pense que derrière, le groupe Mentis, là, Ciccone, etc., vont rentrer sur lui. Et ça, on va avoir un quatuor à l'avant de la course.
Il abandonne d'ailleurs.
Il abandonne
à la suite de cet accident, oui.
Et c'est Cosnefroy qui récupère son maillot à pois qu'il aurait dû porter lui, et on se rappelle de l'épopée avec son maillot à pois de Benoît Cosnefroy.
14h30 sur RMC, on est donc parti pour une longue, très longue descente. A priori, les positions vont se figer durant cette longue descente avant la deuxième difficulté à gravir qui sera le col de la Croix de Fer. Lui aussi classé hors catégorie.
Oui, il n'y a que du hors catégorie aujourd'hui. Voilà. 3 fois 20 points.
Tour, là, hein.
Ah oui, oui, là on a du lourd, hein, le col de la Croix de Fer et puis bien sûr les 21 virages de l'Alpe d'Huez pour tout à l'heure.
Il y a un monument dédié à la gloire de Marco Pantani également dans la descente du Galibier. 128 km 600 d'arrivée. On va profiter de ce moment de longue descente pour revenir évidemment sur l'étape d'hier. Vous avez vibré avec nous sans doute à l'écoute des attaques incessantes de Roglic, de Vingegaard, de la défense de Pogacar avant que celui-ci ne connaisse un coup de bambou. C'était donc hier sur la route de la 11e étape. C'était précédemment dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Bonjour à tous, bienvenue sur la route du Tour de France pour cette 11e étape de la Grande Boucle.
Attention dans le peloton, ça bouge. Vingegaard et Roglic sont en train d'accélérer. Attention, une nouvelle attaque de Vingegaard. Vingegaard à l'attaque, on est déjà dans le ring. Incroyable. Dans le ring à 58 km de l'arrivée. La meilleure défense c'est l'attaque, on lui a dit dans l'oreillette peut-être. Alors vas-y, attaque, lâche-les. Ça va réaccélérer avec Vingegaard sur la droite de la route. Pogacar est obligé d'en placer une. Geraint Thomas avait surveillé. Roglic va aller se placer en quatrième position. 45 km encore à parcourir pour Warren Barguil. Et pourquoi pas une victoire d'étape. Allez chercher Warren Barguil qui est en tête. Mais Geraint Thomas qui est en train de craquer. Romain Bardet, lui, est dans la roue de Pogacar et de Vingegaard. Geraint Thomas, le Britannique qui n'arrive pas à suivre sur les derniers kilomètres parce qu'il y a l'accélération de Tadej Pogacar.
11 km de l'arrivée. Warren Barguil qui attaque le col du Granon.
Vingegaard derrière qui lance ses hostilités à nouveau. Ah, Pogacar a plus de mal. Mais est-ce que Pogacar peut suivre? Non, il ne peut pas suivre. Pogacar ne peut pas suivre, il écoute dans son oreillette, il est en difficulté, Pogacar.
Vingegaard, le Danois qui nous régale, et l'écart qui continue de se creuser entre le Danois et Pogacar. Une minute 20 désormais, une minute 22 même, alors que Bardet a toujours là-bas Nairo Quintana.
Il est à la dérive, Pogacar.
Il s'accroche.
Part à gauche, à droite. Non, il va s'accrocher à la route.
Pour l'instant, il n'est pas lâché. On l'a jamais vu comme ça.
Jonas Vingegaard qui passe la ligne à l'instant, vainqueur d'étape. Quintana arrive à l'instant, une minute juste après Vingegaard. On va voir ensuite arriver les prochains coureurs et notamment Romain Bardet qui est là. Il a plus que 50 mètres à faire. Allez Romain, superbe étape pour le Français aujourd'hui qui passe la ligne.
David Godu qui va terminer avec un retard d'environ 2 minutes.
Tadej Pogacar, grand perdant du jour. On n'imaginait pas un tel débours pour lui dans cette étape du Granon. Et le casque qui pèse très lourd, la tête qui pèse très lourd, et il baisse la tête sur la ligne.
2,52 de retard pour Pogacar.
Au classement général, on va refaire le point. Jonas Vingegaard des premiers devant Romain Bardet à 2 minutes 16. Tadej Pogacar est troisième à 2 minutes 22.
RMC Intégral Tour.
Incroyable étape qu'on a vécue hier, sans doute l'une des plus belles de ces 20-30 dernières années, car le maillot jaune a craqué après avoir été attaqué très loin de la ligne d'arrivée. C'est ça peut-être la différence par rapport à d'autres grands moments qu'on a vécu sur le Tour ces dernières années, Jérôme. Mais là, voir une stratégie sur le long terme à 80 km de l'arrivée, c'est quasiment inédit.
Dans
le Tour moderne, dans tous les cas.
C'est ça, c'est inédit, c'est complètement dingue. On espérait voir ça, on avait parlé de cette tactique possible pour la Jumbo d'isoler les coéquipiers de Pogacar, mais on la disait sans trop y croire finalement, parce que ça fait des années et des années qu'on disait qu'il fallait utiliser cette technique sans qu'aucune équipe ose la faire. Eux, ils l'ont faite, et voilà, et de très loin dans le Galibier, justement dans le col en sens inverse que les coureurs sont en train de descendre. 65 km de l'arrivée, il y en avait partout déjà, et on n'avait pas encore fait le col le plus dur. Enfin, moi j'ai passé un moment complètement incroyable hier, et j'ai pas du tout souvenir d'avoir vibré autant devant une course de vélo. Et j'espère qu'aujourd'hui on aura la même chose, peut-être pas avec les mêmes protagonistes, mais on voit quand même Ineos avec Pidcock qui fait la descente. Peut-être qu'eux aussi ont un plan derrière la tête finalement pour dynamiter l'étape du jour.
Chose nouvelle aussi, Cyril, avec cette étape d'hier, c'est un maillot jaune qui craque. Pendant des années, Indurain n'a pas craqué, pendant des années Armstrong n'a pas craqué, pendant des années Chris Froome est resté impérial sans flancher, sans connaître de défaillance. Pogacar est un coureur fantastique, mais c'est un humain, et un humain ça peut craquer, ça peut connaître des défaillances.
Alors ça peut connaître des défaillances ou faire des bêtises, faire des erreurs, et en ayant bien réfléchi depuis hier soir, la façon dont il s'est éteint dans la dernière ascension, à mon avis il a été pris d'une fringale et qu'à aucun moment il n'a pu repartir. Il n'a pu se relancer dans l'ascension. Parce qu'on ne peut pas être aussi impérial qu'il l'était dans la première ascension, contrant les différentes attaques, en rajoutant sur le sommet de col. Ensuite, il y a eu la descente, bon, qui va durer 25-30 minutes. Et quand on rattaque le col, il n'a plus de jus. Donc ça ne peut pas être physique, ça ne peut être qu'une migraine.
Ouais, une migraine.
Il a fait une feuille, comme on dit.
Une feuille.
Il a fait une feuille. Un coup de fringale.
Il a fait une grosse hypo.
Ouais, il en a parlé, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Il l'a évoqué. Il n'avait pas forcément la réponse, mais il a émis la supposition dans les déclarations après l'étape. Mais est-ce que derrière, dans tous les chiffres qu'ils ont, les watts, etc., on peut savoir?
Non, ou alors faudrait avoir des petites pastilles à l'intérieur, comme on le fait d'ailleurs pour les températures, parce qu'on les calcule comme ça, avec des puces que l'on met à l'intérieur, qu'on les met sous la peau. Mais je pense, moi, qu'il a été pris dans une forme, alors, d'euphorie à un moment, c'est vrai, mais surtout qu'il est tendu sur par rapport aux différentes attaques qu'il a, il est dans la course au maximum et il oublie de s'alimenter.
Mmh. Et erreur de jeunesse ou c'est plutôt la résultante de ces attaques et de ce combat qui ont livré les autres?
C'est une forme de résultante. Je pense qu'à un moment dans la voiture, on aurait dû lui dire pense à manger, pense à alimenter. Mais moi, ce genre de fringale, je l'ai faite. Et le nombre de coureurs que j'ai vus se balader sur un col et être arrêtés sur le col d'après, et à chaque fois, c'était une fringale.
Tu n'as aucun signe avant-coureur d'une fringale?
Si, j'ai dit le premier. Juste avant que la fringale arrive, vous volez. Vous avez des sensations que vous n'avez jamais eues. Vous êtes euphorique. Et à partir de ce moment-là, si ça fait tilt dans votre tête, de toute façon, c'est trop tard. La fringale, elle est déjà installée. Quand vous êtes vraiment, vous ne sentez plus vos jambes d'un seul coup, c'est que la fringale est déjà là. Et même si vous mangez, c'est quasiment trop tard. Rappelez-vous, c'était arrivé à Lance Armstrong dans Jouplane, par exemple. Un peu le même principe. Ils étaient partis à la poursuite de Pantani parce qu'il y avait la guerre Pantani-Armstrong. Il avait oublié de s'alimenter. Pareil, il a fait une feuille dans Jouplane.
C'est pas la même chose que dire, par exemple, moi, ça m'arrive souvent de dire j'ai la fringale parce que j'ai faim. Ouais, mais c'est pas du tout la même chose.
Il y a beaucoup de gens qui disent moi, j'ai fait une fringale. Non, la vraie fringale, vous êtes.
C'est quoi? Alors, donne-nous-les un peu là.
Vous êtes euphorique pendant un petit moment et d'un seul coup, vous avez plus d'essence, voyez flou. Limite vous voyez les étoiles et ça c'est pas une c'est pas vraiment c'est pas une,
plein jour, c'est
une
pas
image
bon
hein, c'est, on voit tout flou et vous avez plus rien dans le moteur et il y a des gens ils continuent à rouler mais ils se rappellent pas des fois la vraie fringale, ils se rappellent pas des dernières minutes qu'ils ont eu avant. Ça arrive,
ça c'est la vraie fringale qui est provoquée quand vous faites un effort max, c'est-à-dire que vous êtes au-dessus de vos seuils et où là vous épuisez très rapidement le glycogène et là effectivement vous vous arrêtez. Et puis il y a la fringale telle qu'il l'a eu hier, c'est qu'elle commence à venir, tu la sens, il est trop tard et là tu es obligé de régler à 20 ou 30% de moins en intensité, sinon vous basculez pas. On remarquera d'ailleurs que le faciès de Pogacar n'est pas le faciès de quelqu'un qui souffre, c'est le faciès de quelqu'un
qui est
inquiet et qui est vide, car il ne peut plus faire l'effort parce qu'il n'a plus. Il n'a plus de carburant.
Rappelez-vous des images, sitôt la ligne d'arrivée franchie, de Pogacar, qui a retrouvé le sourire, qui va taper dans la main de Vingegaard. Est-ce qu'on peut récupérer aussi vite? Parce que là, il avait plutôt pas mal
même. On ne récupère pas. Là, à partir de ce moment-là, c'est quand même. Pour moi, c'est quand même un grand monsieur. Il a été battu. Il a le réflexe et, de dire bon, il faut que j'aille féliciter ceux qui m'ont battu. Oui, non, ça c'est un comportement que moi j'approuve. Il aurait très bien pu faire comme beaucoup d'autres, se mettre à pleurnicher. Ah, j'ai rien, mauvais visio, ils m'ont attaqué. Enfin, bref, lui, il est grand. Il va voir celui qui lui a mis les genoux à terre et il le félicite. Je trouve ça que c'est formidable.
Et après, il plonge dans un paquet de bonbons.
Voilà, alors peut-être pas de bonbons, mais c'est ça. Le but, c'était de recharger.
Mais oui, fringale. Hein,
mais exactement pareil.
Le but, c'est ça, c'est de recharger au maximum. Mais pourquoi on dit si c'est une fringale, c'est pas trop grave physiquement pour Pogacar? Il va se remettre très vite parce qu'en fait, il épuise ses stocks. Mais quand il va recharger ses stocks, en fait, le corps humain, il a une mémoire. Il va recharger plus. Imaginons, je simplifie vraiment, mais imaginons qu'il est parti avec une réserve de sang. Il a tout épuisé. Le corps, il va dire ok, 100, ça suffisait pas. Quand il va m'en recharger, je vais stocker à 110. Le régime dissocié scandinave, si ça parle à ceux qui suivent un peu la nutrition, c'est ça le but, c'est d'épuiser à l'entraînement son stock de glycogène et recharger juste avant la course pour surcompenser. Donc si c'est qu'une fringale, aujourd'hui il devrait déjà avoir retrouvé ses jambes. Donc finalement, ça laisse pas de non. Alors par contre, il a quand même pris 3 minutes dans les carreaux,
oui,
donc il a 2 minutes
de retard. Le débours en termes de temps est là,
mais il y a des athlètes qui simulent à l'entraînement la fringale justement pour avoir ce phénomène de surcompensation derrière pour augmenter leur niveau.
C'est ce que fait Christophe en randonnée souvent.
Simule la fringale pour pouvoir augmenter.
Je simule ensuite la fatigue et ensuite, paf, je vous mets un coup d'accélérateur et je vous laisse sur place. Exactement.
Non, tiens. Il simule la fringale pour justifier.
Pour pouvoir manger. Très fort. Tiens, on va écouter Pogacar justement après sa fringale. Il n'en parlait pas vraiment hier, mais il reconnaissait qu'il avait été battu par plus fort que lui. Tadej Pogacar.
J'ai été beaucoup attaqué par Jumbo aujourd'hui, ils étaient super forts. Je n'ai pas eu assez d'énergie pour la dernière montée, j'ai souffert jusqu'à la fin. Ce n'était pas le meilleur jour, on verra demain si je peux mieux faire. Je veux juste rouler jusqu'à la fin, je vais tout donner pour ne pas avoir de regrets.
Je vais tout donner pour ne pas avoir de regrets et pour récupérer ce maillot jaune. 2 minutes 22 le sépare donc désormais de Jonas Vingegaard et 2 minutes 16, c'est la différence entre Vingegaard et Romain Bardet qui n'a donc qu'une toute petite poignée d'avance sur sur Tadej Pogacar. En tous les cas, le podium est loin d'être figé. À combien, à 10 jours maintenant de l'arrivée de ce Tour de France, il restera les Pyrénées à franchir et puis également cette étape aujourd'hui. On rappelle qu'il reste encore 117 km à parcourir. On fait un tout petit point avec toi, Pierre-Yves, un petit top course justement, puisque nous sommes maintenant dans la descente du Galibier en direction de la montée du col de la Croix de Fer.
Oui, et qu'on a une image sympathique à 117 km de l'arrivée. Deux hommes, Thomas Pidcock et Chris Froome, qui sont à la barre pour essayer de revenir à 1 minute 10 derrière les hommes de tête qui sont Anthony Perez, Nelson Poles, Louis Mentis, Giulio Ciccone. Tous les quatre sont devant, 30 secondes derrière il y a Oliveira, Schoenberger et Gossens, et donc Chris Froome et Pidcock qui essayent de revenir alors que derrière le peloton avec Jonas Vingegaard, le maillot jaune, est à 2 minutes 11.
Très bien, il est 14h42, on revient dans un instant sur la route du Tour de France. Juste le temps pour moi de vous dire que l'étape aujourd'hui devrait arriver assez tard. On nous annonce entre 17h50 et 18h15. On fera un petit point tout à l'heure pour savoir et pour affiner cette heure d'arrivée. À tout de suite.
RMC Intégral Tour.
Christophe Cessieux.
14h44, vous êtes sur RMC, l'Intégral Tour. Ça dure encore une grosse semaine, puisqu'on achèvera évidemment cet Intégral Tour le 24 juillet au soir, avec une étape qui arrivera sur les Champs-Élysées aux alentours de 19h30. 14h45, on est encore à 114 km de l'arrivée de cette 12e étape, avec donc un homme en tête, Anthony Perez, c'est toujours lui.
Il y a même un petit groupe, ils sont revenus dans la descente, ses camarades d'échappée aujourd'hui. Donc Anthony Perez est accompagné de Nelson Poles, Louis Mentis et également Giulio Ciccone. Schoenberger, Gossens et Oliveira ne sont pas très loin, ils sont à 24 secondes. Et puis derrière, on a ce duo étonnant, amusant, d'un jeune et d'un ancien britannique, Thomas Pidcock et Chris Froome, qui sont partis en contre. Mathis Louvel a été un petit peu décroché, il est à 2 minutes 13, il va être rattrapé dans quelques instants par le peloton emmené par les coéquipiers du maillot jaune. Christophe Laporte, Tige Benoît est là également, et Jonas Vingegaard évidemment, et Wout van Aert avec son maillot vert.
Étonnant de voir Chris Froome à l'avant de la course, ça nous rappelle quelques années en arrière. On rappelle, ce garçon a tout de même remporté 4 fois le Tour de France, c'est pas rien. Il est juste en dessous du club des 5, les Indurain, Merckx, Hino, Anquetil. Chris Froome qui espérait pouvoir égaler ces géants du Tour de France, même s'il est à l'avant aujourd'hui, je pense que ce rêve est désormais passé, hein, Cyril. Il ne gagnera jamais un 5e Tour de France, Christophe.
Non, il ne le gagnera jamais, d'abord parce qu'il y a de nouveaux talents qui sont arrivés, d'une part, et que d'autre part, il traînera toujours les séquelles de sa grave chute, qui l'a quand même éloigné du peloton pendant très longtemps. Et je trouve que c'est sympa, moi, de le revoir dans une grande étape de montagne. Il avait déjà attaqué une première fois au départ. Ça veut dire qu'il retrouve non pas ses qualités d'il y a quelques années, mais qu'il retrouve l'envie. Et puis, il est tout simplement en train de démontrer que, quelque part, c'était quand même un grand coursier.
37 ans, 4 fois vainqueur du Tour de France. Et à l'image de ce que dit Cyril à l'instant, Jérôme, on a l'impression que autant il était impopulaire lorsqu'il portait le maillot jaune sur les routes du Tour de France, lorsqu'il gagnait tout et qu'il attaquait l'école à la vitesse d'une mobilette, autant aujourd'hui, les gens ont de l'affection pour lui.
Et oui, ça c'est très français. Très français, bien sûr. C'est très français, on n'aime pas trop ceux qui gagnent. Et voilà, il est redevenu un peu plus humain, on va dire, quand il a eu ses problèmes et qu'il ne dominait plus les courses. Moi, ce que je retiens, comme a dit dit Cyril, c'est que le symbole est sympa et surtout c'est la passion de Chris Froome pour le vélo quand même, parce qu'il faut revenir d'une chute pareille, de traîner sa misère. Vous avez gagné 4 fois le tour, vous terminez Gruppetto tous les joueurs. Voilà, petit à petit il retrouve un peu le bon coup de pédale. Certains disent ouais, il continue à courir, c'est facile quand on prend 5 millions par an. Oui, mais 5 millions ou pas, il en a, on a toujours besoin de 5 millions hein. D'ailleurs si je les avais, oui, je dirais pas ça,
mais tu les partagerais.
Pour 5 millions tu reprendrais le vélo, tu reprendrais ta carrière de coureur professionnel?
Ouais, ça se réfléchirait. Tiens, ça,
c'est
se
le vélo qu'il reprendrait pas.
Non, mais
c'est pas un problème de vélo, c'est un problème d'argent.
C'est un problème de jambes surtout maintenant. Non, mais voilà, il faut souligner quand même la passion qu'il a pour son sport, hein, Christopher Froome. Moi, j'aimais beaucoup le coureur, même quand il était au top de sa forme.
Tu as couru à ses côtés.
Je cours depuis junior avec lui, en fait. Il était encore sous les couleurs du Kenya quand j'ai fait mon premier championnat du monde junior en 2004. Donc, je le connais depuis longtemps. Il était au centre mondial de l'UCI à Aigle. Je le connais vraiment bien. C'est vraiment un bon mec. C'est ce qu'on appelle des bons mecs. Il y en a qui ont dominé et qui n'étaient pas vraiment sympas. Lui faisait partie de ces gens qui étaient sympas.
Et pourquoi il était impopulaire alors?
Parce qu'il gagnait, simplement.
Oui, mais regarde, Pogacar gagne et il n'est pas aussi impopulaire.
Ça commence. Pour l'instant, il a gagné 2 tours. Mais alors après, Pogacar, il a aussi un style de course qui est plus spectaculaire. Froome faisait partie de cette équipe Sky qui neutralisait la course. C'était le rouleau compresseur. Les gains marginaux. Il n'y avait pas de spectacle avec eux. On savait que la course allait être codifiée, etc. Et je pense que c'est tout cet environnement qui a fait que les gens ont perdu de l'affection pour Christopher Froome. Maintenant, vous avez un coureur comme Contador qui a aussi dominé les courses, mais qui était tellement spectaculaire que tout le monde l'aime. En fait, c'est ça qui rend aussi les coureurs sympas ou pas. Bardet, Pinot, par exemple, c'est aussi des coureurs qui attaquent et c'est pour ça que leur popularité est au maximum aussi.
4 fois vainqueur du Tour de France, 2 victoires au classement général final de la Vuelta, plus un Tour d'Italie, 14 étapes remportées dans les grands tours, dont 7 étapes sur le Tour de France, 5 étapes sur la Vuelta et 2 étapes sur le Tour d'Italie. N'en jetez plus, c'est un grand champion qui aujourd'hui tente d'aller chercher peut-être, pourquoi pas, cette victoire d'étape.
Pierre. En tout cas, je pense qu'ils vont rentrer, ils sont plus qu'à 40 secondes tous les deux avec Thomas Pidcock. Ils se sont parlé il y a quelques instants pour prendre des relais. Pour l'instant, ça tient pour Chris Froome et Pidcock. 40 secondes derrière la tête de course. Le peloton est à 2 minutes 40. Les grandes manœuvres ne sont pas encore lancées, à 112 km de l'arrivée. Dans quelques kilomètres, maintenant, il y aura la deuxième difficulté du jour, le col de la Croix de Fer.
14h49, mon cher Pierre-Yves, c'est l'heure de la photo finish, votre rubrique préférée. De quoi allons-nous parler aujourd'hui, monsieur Leroux ?
Eh bien, justement, du galibier. Alors, ça va pas être très gai, figurez-vous, parce qu'il y a 55 ans, le 13 juillet, le Tour de France vivait l'une de ses journées les plus sombres. Vous avez tous entendu l'histoire du coureur britannique Tom Simpson, qui perd la vie à 29 ans sur les pentes du Ventoux, insolation, amphétamine. Bon, les causes réelles du drame sont désormais éparpillées au milieu des cailloux du Mont Chauve et de la stèle qui rend hommage au champion du monde 1965. Alors, beaucoup d'entre vous ont certainement encore les images de Fabio Casartelli aussi étendu pour tout toujours sur l'asphalte du Portet d'Aspet à cause d'un satané bloc de béton. En revanche, vous ignorez peut-être le destin du Rennais Adolphe Hélière, premier DNS ad vitam aeternam. Alors dans notre jargon, DNS veut dire do not start, n'a pas pris le départ, et non donnez-nous du Sauvignon comme le pense Christophe depuis 21 ans. En 1910, Adolphe, qui pas très original comme tous les Adolphe, porte la moustache, est un coureur amateur qui s'engage à 19 ans sur un Tour de France bien trop grand pour lui. Il y laisse ses économies et termine tant bien que mal la première semaine pour arriver à la journée de repos de Nice. C'est cependant sur cette pause qu'il décide de plonger dans la Méditerranée pour se rafraîchir des rayons brûlants du soleil. Probablement victime d'une hydrocution, le coureur devient le premier mort de la Grande Boucle il y a 112 ans. Mais ils ne sont pas les seuls coureurs morts sur la Grande Boucle. Issu d'un milieu aisé, Francisco Cepeda était lui juge municipal dans la région de Bilbao jusqu'en 1929, année où il décide de se consacrer au vélo à 100%. En 1930, il termine 27e du tour et devient le premier Espagnol et donc le premier Basque à terminer un Tour de France. En 1931, il est le seul Espagnol au départ car les autres n'ont pas trouvé d'accord sur leurs conditions de participation. Malheureusement, il abandonne à la 20e étape à cause d'une septicémie. Francisco reprend alors temporairement son poste de juge. En 1933, il revient sur la Grande Boucle mais est hors délai dès la première étape. En 1935, Cepeda est en forme. Il termine 17e de la première édition de la Vuelta. Son père lui déconseille pourtant de s'engager
en indépendant. Une nouvelle fois sur le tour. Le 4 juillet, Cepeda prend malgré tout le départ du Vésinet en indépendant aux côtés des Magne, Vietto et Pélissier. 7 jours plus tard, El Negro, comme on le surnomme pour son teint foncé, est retrouvé dans un fossé de cette descente du Galibier que les coureurs viennent de parcourir. Hospitalisé, il est trépané à l'hôpital de Grenoble. Il meurt 3 jours plus tard. Les causes du drame restent floues. L'apparition des jantes en duralium pour remplacer les jantes en bois sont peut-être une explication parce qu'elles provoquent de nombreux accidents car elles ont tendance à chauffer. Mais il y a des témoins qui disent qu'une voiture rouge de l'organisation l'a percutée. Antonin Magne et le Belge Gustave Daniels, d'ailleurs, abandonnent pour les mêmes raisons ce jour-là. Les fractures du crâne, de la clavicule, de l'humérus, les multiples ecchymoses aux bras, aux jambes et aux mains, et surtout la façon dont l'organisateur, le journal Lotto, va tenter d'étouffer toute communication, laisse penser qu'on ne connaît pas toute la vérité sur le premier mort des routes du Tour. L'an prochain, la grande boucle partira de Bilbao, la ville de Francisco Cepeda, l'occasion de rendre enfin, peut-être, un hommage à celui qui n'a même pas une plaque à son nom. Je soumets l'idée, vous ne m'en voudrez pas, j'espère.
Merci Pierre-Yves Effect. Le druide a applaudi, lui qui est resté vivant sur les routes du Tour, et tant mieux pour nous. C'est vrai qu'on a tous en tête les images de Casartelli, qui reste le dernier coureur à être décédé sur les routes du Tour de France, même si depuis il y en a eu d'autres malheureusement.
Oh, il y en a eu beaucoup
sur d'autres courses, ouais. Notamment sur Paris-Nice ou voilà, c'est
sur la voie publique également.
La voie publique également, mais finalement, vu les risques que prennent les coureurs, moi je suis étonné qu'il n'y ait pas plus d'accidents gravissimes. Il y a des accidents tous les ans. Il y a beaucoup de blessures, hein, beaucoup de blessures assez graves, mais on échappe presque au pire à chaque fois, Jérôme. C'est presque surprenant vu
en, vu en les, course, les, tu dis.
Ouais.
Oui, c'est sûr que bon, les coureurs sont des professionnels, hein, c'est des experts, mais bien sûr quand vous descendez à 80, 90, 100 km/h parfois dans des descentes de col, même si la route est fermée, vous êtes sur des petits boyaux de 25 mm, vous avez que votre petit maillot pour vous protéger, votre casque. Bien sûr que finalement il n'y a pas tant d'accidents graves que ça, si ce n'est quelques fractures par-ci par-là. Heureusement d'ailleurs, mais quand on compare par exemple à la MotoGP qui tombe où il tombe à 250-300 km/h et ils se relèvent quasiment sans rien.
Ils sont protégés, une combinaison intégrale,
ils ont le casque, etc. En vélo, malheureusement, on n'a rien pour nous protéger à part le casque et ce bout de maillot. Et quand on descend à 100 km/h sur un vélo comme ça, bien sûr, les risques sont énormes. Et c'est pour ça que à l'entraînement, moi, je répète souvent à ceux que j'entraîne ou que je croise, prenez pas de risques à l'entraînement. Surtout maintenant avec Strava, vous connaissez le réseau social des sportifs où on peut se comparer avec les professionnels sur un bout de parcours, que ça soit en montée, en descente, n'importe. Et j'en connais qui essayent de se rapprocher des temps des coureurs pro en descente.
Surtout dans les descentes, pas dans les montées.
Dans les dans les montées, ils n'essayent pas, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Mais dans les descentes, faut pas s'amuser à ça. Les pros, ils ont les routes fermées, il y a les motos devant eux, ils sont en peloton, c'est leur boulot, ils font ça toute la journée. Donc faut pas prendre de risques à l'entraînement, surtout pas. Et malheureusement, il y a déjà suffisamment de morts en course pour pas jouer avec le feu.
Une cinquantaine de coureurs cyclistes ont connu la mort sur les épreuves cyclistes depuis le début du XXe siècle, et donc 3 décès sur les routes du Tour de France. Souhaitons que le prochain arrive dans très très longtemps, le plus longtemps possible évidemment. En retour sur la route de ce Tour de France, cette 12e étape, nous sommes justement dans la descente, dans la longue, très longue descente du Galibier. Pierre-Yves, on va faire un nouveau point sur la course. Le top course.
108 km à parcourir, 3 minutes 33 d'avance pour les hommes de tête, un petit groupe qui augmente petit à petit dans les différentes descentes. Nelson Poles est présent, Giulio Ciccone, Anthony Perez, le français Luis Mentis. Il y a également Gossens qui est présent, Giulio Ciccone, et puis les garçons qui sont rentrés il y a quelques instants. Schoenberger, Pidcock est présent avec Chris Froome. Donc voilà, ils sont désormais 9 à l'avant. Le peloton, lui, est à 3 minutes 36. Un groupe Eto s'est formé un peu plus loin. Tiens, on va prendre de leurs nouvelles. Ils sont exactement à 5 minutes 08. Cyril Barthes en difficulté. C'est lui qui navigue le plus loin pour le moment. Mais à 5 minutes, ça va. C'est pas trop, trop loin encore, à 107 km de l'arrivée.
Froome et Pidcock, ils sont pas tout à fait rentrés encore, Jérôme. Hein. Ouais, ils sont pas loin.
Pas tout à fait rentrés. Ils sont à une quinzaine de secondes pour l'instant. Ils devraient réussir à intégrer ce groupe de tête.
Cyril nous dit quoi ?
Il fait 8 secondes.
8 secondes.
On a un peu anticipé, c'est vrai, mais je pense qu'ils vont.
C'était avant qu'ils étaient à 15 secondes, maintenant ils sont à 8.
Ah, très bien.
On fait un petit tour sur la moto avec Arnaud dans la descente. Ça va vite, Arnaud, sur la moto de Marco ?
Ah ben ça va vite, surtout ça descend pendant très 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 longtemps parce qu'en fait il y a d'abord la descente du Galibier, puis vous allez voir les coureurs dans quelques instants qui vont regrimper sur la très courte montée du col du Télégraphe, et puis il y aura à nouveau une descente pour aller vers Saint-Jean de Maurienne. Donc on aura fait le calcul hein, du kilomètre 33 au kilomètre 80,5, c'est-à-dire pendant 47 kilomètres, à l'exception de la très courte montée du col du Télégraphe, eh bien on aura été en descente, de quoi recharger un petit peu les batteries. Enfin je suis pas sûr que ça soit vraiment justement le cas pendant 47 km de descente, parce que c'est quand même très très exigeant. Ça paraît pas comme ça, mais c'est très exigeant évidemment de descendre, surtout pour les coureurs qui sont pas forcément des as du Gymkhana dans des positions de recherche de vitesse en descente. En tout cas voilà, c'est vraiment une très très longue descente, et derrière on va aborder les premiers lacets donc du col de la Croix de Fer. Ça sera pas la même mayonnaise, puisque là on va monter pendant 29 km à 5,2%. Bref, de très très longues montées aujourd'hui après celle du Galibier tout à l'heure, celle donc du col de la Croix de Fer qui sera également très long.
Merci Arnaud, il est 14h58, les infos de 15h arrivent dans un instant, on se retrouve juste après pour la suite de cette étape. Il reste encore 106 km et deux ascensions énormes, 29 km dans le col de la Croix de Fer, rendez-vous compte. Et en plus derrière il faudra s'infuser la montée de l'Alpe d'Huez, ça va être dur, très dur. À tout de suite.